pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour. C'est à chaque fois la même sensation. Le ventre qui se contracte, comme des fourmis dans les épaules, et un besoin, disons viscéral, de taper sur quelque chose de mou pour me défouler. Alors que l'Allemagne et la Belgique pleurent leurs morts et leurs disparus à cause d'inondations gigantesques et que partout sur la planète, les conséquences du changement climatique font souffrir l'humanité sous forme d'incendies et de températures records, l'Agence internationale de l'énergie nous alerte. Sur quoi ? Eh bien, écoutez bien. Sur le fait que les émissions mondiales de CO2, qui sont, je le rappelle, la principale cause du réchauffement climatique, ces émissions de CO2, donc, devraient atteindre un niveau jamais vu en 2023 à cause des plans de relance des États. Eh bien oui, les États des pays industrialisés ont débloqué des sommes records pour les plans de relance post-Covid, mais seulement 2% sont consacrés au développement des énergies propres. Et pour achever le tableau, la France adopte cette semaine sa loi climat et résilience qui manque tellement d'ambition que le gouvernement est sommé par le Conseil d'État, la plus haute juridiction du pays, de revoir sa copie. Avouez franchement qu'il y a de quoi s'énerver. Mais rassurez-vous, nos invités seront plus mesurés, quoique. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
Au moins 118 morts en Europe, le bilan des dramatiques intempéries ne cesse de s'alourdir. L'Allemagne déplore à elle seule au moins 103 morts. On est sans nouvelles de 1300 personnes.
C'était le chaos. Normalement, on ne voit ça qu'à la télé et maintenant c'est devant notre porte. Tout cela est effrayant, impressionnant, c'est terrible.
500 000 hectares de forêt qui partent en fumée. Entre les États de l'Ouest américain et le sud du Canada, les incendies liés aux fortes températures font des ravages et amènent les autorités à évacuer de nombreux riverains.
On parlait de l'Amérique du Nord, c'est donc autour de l'Espagne maintenant. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qui se passe ?
Eh bien, cet air très chaud a pu franchir la Méditerranée pour remonter sur le sud de l'Espagne avec des valeurs qui ont approché les 45-48 degrés sur le nord du Maroc.
45 degrés minimum, souvent plus de 50. Depuis un mois, la température ne retombe pas à New Delhi.
À Verviers, la crue a pris des allures de tsunami, laissant des épaves de voitures et des montagnes de débris partout.
Il n'y a plus rien à faire pour sauver le petit village d'Odos, dans le sud de Chypre.
La sécheresse est si intense qu'il n'y a pas d'eau pour se laver, ainsi que pour notre bétail ou pour la culture de nos terres.
Voilà un résumé de l'actualité de ces dernières semaines. Bonjour Jean-Pascal Fanny Berzel.
Bonjour Anne-Cécile Brahm.
Vous êtes climatologue, vous êtes professeur à l'université de Louvain, vous avez été président du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts solutions du climat. Depuis le sommet de la Terre à Rio en 1992, vous avez suivi toutes les grandes conférences organisées par les Nations Unies sur le climat. Finalement, des États-Unis au Japon, de la Sibérie à l'Allemagne, en passant par la Belgique et par l'Espagne, ces dernières semaines pourraient se résumer par une vie au cœur des turbulences climatiques. C'est justement le titre du livre que vous avez publié en 2015 avec Thierry Libaert et Philippe Lamotte aux éditions de Boeck. Et depuis, les conséquences du changement climatique ne cessent de s'accroître.
Oui, c'est un triste constat que je ne peux que confirmer et que le GIEC confirme rapport après rapport, malheureusement.
Alors, vous êtes belge. La Belgique a été touchée par de fortes inondations qui ont causé la mort d'une trentaine de personnes. Et aujourd'hui encore, il y a à peu près une centaine de disparus. Comment est-ce que vous réagissez à ces inondations ?
Mais avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'empathie, parce que ce sont des gens qui ont perdu des proches, bon, certains ont perdu la vie, certains ont perdu l'œuvre de toute une vie, leurs souvenirs dans leur maison et la brutalité de ce qui s'est passé est terriblement traumatisante. Maintenant, c'était traumatisant chez nous, mais malheureusement, il s'est passé ici ce qui se passe bien trop souvent dans d'autres pays depuis longtemps aussi, hein, parce que ces inondations-ci, elles ne sont pas plus graves parce qu'elles se passent en Belgique plutôt qu'au Bangladesh ou au Sénégal. Hein, donc,
Mais dans le petit medley là, réalisé par François Porcheron qu'on entendait à l'instant, une dame disait « on a l'habitude de voir ça à la télé, mais là, c'est devant chez nous ». C'est-à-dire que en fait, les Européens sont un peu secoués parce que ça se passe en Europe et pas en Asie du Sud-Est ou en Afrique de l'Ouest. C'est ça qui choque, alors que ça fait des décennies finalement que les climatologues alertent. C'était dans le premier rapport du GIEC en 1990 ce qui se passe actuellement.
Tout à fait. Hein. Donc ça choque, disons, ça choque plus en Europe de l'Ouest, mais les populations qui sont déjà sujettes depuis des dizaines d'années, dans certains cas, aux premiers effets des changements climatiques, les événements extrêmes dont on sait qu'ils se multiplient avec le dérèglement du climat. Eh bien, les personnes qui sont sujettes à ça dans le monde, elles connaissent malheureusement ça depuis longtemps. Donc, ce qui est nouveau, c'est que ça frappe ici l'Europe de l'Ouest, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche. Mais c'est une piqûre de rappel très douloureuse, hein, du fait qu'il est grand temps de prendre la question des changements climatiques beaucoup plus au sérieux, ce qu'effectivement les experts disent depuis au moins une quarantaine d'années et le GIEC depuis une bonne trentaine d'années. Parce qu'effectivement, dans le premier rapport du GIEC, on lisait déjà que le réchauffement allait s'accompagner de davantage d'extrêmes, des deux côtés du cycle hydrologique en particulier, plus de sécheresse d'un côté et d'autre côté, plus de précipitations très intenses qui bien souvent conduisent à des inondations comme celles qu'on a vues ces derniers jours.
Alors souvent, on reçoit des mails des auditeurs qui ne comprennent pas bien comment est-ce que le changement climatique peut créer à la fois des sécheresses et des inondations. Alors, un cours par un climatologue à la radio, ce n'est pas forcément évident, mais en quelques mots, comment vous pourriez nous expliquer cela ?
D'abord, d'où vient ce réchauffement ? Il faut commencer par là, peut-être. Il vient du fait qu'avec notre usage massif de combustibles fossiles et aussi par le déboisement, hein, qui joue quand même un rôle significatif aussi dans les émissions de CO2, bien nous émettons de très grandes quantités de CO2 qui, en quelque sorte, épaississent la couche d'isolant thermique que nous avons autour de la planète. Et en épaississant cette couche d'isolant thermique, et la quantité de CO2 dans l'atmosphère a, cette année-ci, passé la barre des 50% au-dessus du niveau pré-industriel, bien forcément, en dessous de cette couche isolante, et nous vivons tous en dessous de cette couche isolante, la température monte. Alors, il se fait que quand la température monte, eh bien, l'évaporation se fait plus rapidement. On sait bien que quand il fait chaud, les choses sèchent plus vite, ce qui veut dire que les sols peuvent s'assécher plus vite, ce qui peut conduire à des sécheresses, mais aussi ça veut dire que la vapeur d'eau au-dessus de l'océan est émise vers l'atmosphère en plus grande quantité. Et donc il y a dans l'atmosphère en moyenne une plus grande quantité de vapeur d'eau. Et quand les conditions sont réunies, et ça ce sont des phénomènes qui sont plus locaux ou plus régionaux, quand les conditions sont réunies pour que cette vapeur d'eau devienne de la pluie, ou éventuellement, s'il fait encore assez froid, de la neige, eh bien les quantités de pluie, ou dans certains cas de neige, qui tombent du ciel, peuvent être beaucoup plus importantes qu'avant. Alors ça, c'est le premier facteur. C'est basé sur une loi de la physique, qui est une vieille loi de la physique, hein, Clausius-Clapeyron, qui nous dit que pour chaque degré Celsius supplémentaire, eh bien, l'air peut contenir 7% de vapeur d'eau en plus. Et donc ça va très vite. Si on a quelques degrés en plus, eh bien, on a des quantités d'eau qui peuvent tomber du ciel qui sont beaucoup plus importantes. Il y a d'autres facteurs aussi, mais ce facteur-là, c'est celui sur lequel il y a un consensus absolu parce que c'est une loi de la physique fondamentale. Il y a probablement d'autres phénomènes qui jouent aussi, qui sont plus complexes, mais on ne va peut-être pas effectivement donner tout un cours de climatologie ici.
Mais peut-être qu'on va susciter des vocations de climatologues. On sait qu'on va en avoir bien besoin. Alors pendant longtemps, justement, les climatologues refusaient de commenter à chaud les catastrophes naturelles en argumentant que la science travaille sur le temps long. Est-ce que, donc vous, aujourd'hui, vous n'hésitez plus à faire le lien entre ces événements récents et le changement climatique ?
Mais je voudrais d'abord préfacer mes remarques en disant que, de toute façon, tout ce qui se passe maintenant dans le système climatique se passe passe en dessous d'une couche isolante, d'isolant thermique, qui est 50% plus épaisse qu'il y a 150 ans. Et donc ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur ce qui se passe dans le système climatique. Donc, à des degrés divers, tous les événements qui se passent dans le système climatique aujourd'hui, et c'est comme ça, disons, depuis une petite cinquantaine d'années en tout cas, sont influencés, plus ou moins fort, par ce contexte différent. Donc maintenant, je crois que progressivement, la question, si on veut vraiment se poser cette question-là, et peut-être qu'on ne devrait plus y passer trop de temps et s'occuper surtout de prévention, la question, ça devrait être, si on veut poser une question scientifique, c'est est-ce que l'on peut éventuellement prouver que tel événement extrême se serait passé, ne se serait pas passé plutôt, si les changements climatiques n'étaient pas là. Mais je pense que la réponse est de plus en plus évidente, c'est non. Je veux dire, les changements climatiques sont en route, et même si on n'a pas toujours tout de suite l'article publié dans une revue à comité de lecture qui le prouve par A plus B, ça me semble évident. Effectivement, j'ai quand même 40 ans d'expérience dans le domaine, donc je m'appuie quand même sur une longue carrière tout de même.
Alors, on le disait tout à l'heure, hein, tous ces événements étaient annoncés dans le premier rapport du GIEC publié en 1990, il y a donc plus de 30 ans. Et chaque année, les scientifiques, dont vous, hein, détaillaient la hausse des émissions de gaz à effet de serre. On énonce, on égrène les records de température qui, chaque année, sont de plus en plus hauts et qui entraînent donc la multiplication de ces événements extrêmes dont nous parlons. En fait, c'est un engrenage dont nous n'arrivons pas à sortir.
Oui, et en même temps, c'est très important de ne pas être fataliste et c'est très important de se rendre compte que, ok, l'épaisseur de la couche d'isolant thermique a augmenté de 50%, mais on peut empêcher qu'elle n'augmente à 70%, 80%, 90%. Cet avenir-là, cette partie-là de l'avenir est entre nos mains. Et il est évident qu'un climat qui correspond à une épaisseur d'isolant thermique multipliée par 2, une concentration en CO2 multipliée par 2, est bien plus dangereux pour tout le monde, hein, les humains et aussi tous les écosystèmes et les êtres vivants dont nous dépendons à la surface de la planète, qu'un climat associé à une couche d'isolant thermique qui serait stabilisée autour de 50-60% au-dessus du niveau pré-industriel. Donc on a la possibilité d'agir, hein, aussi bien du côté de la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, et c'est essentiel, et ça doit évidemment être surtout le fait des principaux pollueurs, d'abord, et aussi du côté de ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique pour réduire la gravité des impacts quand ils se produisent.
Alors, moi, je suis ces questions depuis seulement une dizaine d'années, donc je suis toute petite par rapport à vous, mais j'ai l'impression que les États ne cessent de reculer finalement les prises de décision, ce qui pourrait vraiment, on va dire, agir sur le changement climatique. La nouvelle mode, par exemple, c'est de viser ce que l'on appelle la neutralité carbone d'ici 2050, c'est-à-dire non seulement diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, mais essayer de compenser celles que l'on n'arriverait pas à diminuer. Mais 2050, c'est loin finalement, c'est maintenant qu'il faut agir. Et 110 pays se sont engagés à cette neutralité carbone d'ici 2050. Qu'en pensez-vous ?
Mais je pense que si tous ceux qui se sont engagés, que ce soit des pays ou des entreprises d'ailleurs, ou d'autres organisations, si tous ceux qui se sont engagés à atteindre ces neutralités carbone en 2050 prenaient les mesures nécessaires pour y arriver vraiment et sans ce qu'on appelle en anglais greenwashing, c'est-à-dire sans mesures qui sont en apparence suffisantes, mais qui dans les faits ne seront pas suffisantes, mais ce serait déjà un pas très important. Ma crainte, c'est que on annonce souvent dans des discours qu'on va atteindre cette neutralité carbone en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire, la neutralité carbone ? Scientifiquement, ça veut dire ne pas émettre plus de CO2 que ce que les systèmes naturels ou éventuellement l'une ou l'autre technique artificielle, encore très peu au point aujourd'hui, ne peuvent absorber. Et qu'il y ait donc un équilibre entre ce qui est émis et ce qui est absorbé. Si, si tout ce qu'on émet est absorbé, que ce soit par des forêts, l'océan ou éventuellement des machines à vérifier, année, alors effectivement, l'épaisseur de cet isolant thermique n'augmentera plus et au moins le problème sera stabilisé. Mais pour y arriver, on ne va pas y arriver par magie. On va y arriver si on fait des efforts très importants pour se libérer de l'usage des combustibles fossiles, si on fait des efforts très importants pour arrêter de déboiser massivement, si on fait des efforts pour, au contraire, entretenir les sols, favoriser le stockage de carbone dans la végétation et dans les sols. Et ça, c'est encore trop peu fait. Donc il y a des discours, oui, mais il y a encore trop peu de mesures très concrètes qui sont sur le chemin réel de la mise en œuvre de cet objectif. Donc je ne critique pas du tout l'objectif. L'objectif, quelque part, il vient du rapport du GIEC de 2018. Hein.
Et il est dans l'accord de Paris, signé à la COP21.
Il est cité dans l'accord de Paris, et donc ce n'est pas l'objectif qui est en cause. Ce ne sont pas les discours qui sont en cause. Ce qui est en cause, c'est le manque d'adéquation entre le discours et des mesures très concrètes pour arriver à réaliser ces objectifs.
Oui, on le voit très simplement à plus court terme. Hein, la France a adopté cette semaine sa loi climat et résilience qui a été vidée finalement de toute l'ambition que les 150 citoyens qui avaient participé à la Convention citoyenne sur le climat y avaient mis.
Alors, je ne vais pas commencer à me mêler de la politique française, mais simplement citer l'opinion qui a été répétée plusieurs fois par le Haut Conseil pour le climat français, qui est une instance indépendante et qui est très critique par rapport au manque d'ambition des mesures qui ont été prises jusqu'à présent. Donc, oui, tout le monde doit agir beaucoup plus dans tous les pays et en France aussi, et je dirais, et en Belgique aussi.
Alors, il y a une prise de conscience de la société. Hein. On se rassure avec ça en disant il y a des citoyens qui se mobilisent de par le monde. Il y a les grèves pour le climat du vendredi initiées par Greta Thunberg. Tout le monde, on voit de plus en plus de jeunes avec leurs panneaux le vendredi devant la mairie ou devant leur lycée, etc. Enfin, tout ça est très enthousiasmant, mais ce n'est évidemment pas du tout à l'échelle. On a besoin de décisions à l'échelle politique, il n'y a que ça qui peut être au niveau du défi à relever.
C'est vrai, mais je pense qu'il ne faut pas minimiser l'importance de cette mobilisation des jeunes et des citoyens, parce que, comme je l'ai dit un certain nombre de fois, face à un ou une décideuse politique, le regard d'un jeune ou d'une jeune qui l'interpelle, ce décideur politique, par rapport à son avenir, est beaucoup plus difficile à mettre dans un tiroir qu'un rapport du GIEC. Et je pense que la mobilisation qui a été très largement inspirée par Greta Thunberg en 2018 a probablement joué un rôle très important dans le fait qu'on ait le pacte vert européen, par exemple, et qui n'est pas encore entièrement réalisé, loin de là. Hein, dans une certaine mesure, ce sont encore des propositions qui restent encore à concrétiser. Mais je pense que les élections de mai 2019, les élections européennes de mai 2019 et bien des élections dans bien des pays ont été influencées par cette interpellation très vive et très bienvenue, je dois dire, de la part des jeunes. Donc, je pense que cette mobilisation citoyenne, bien sûr, elle n'a pas réduit les émissions directement, hein, on est d'accord, mais je pense qu'elle a joué un rôle important pour mettre davantage de femmes et d'hommes politiques et de décideurs devant leurs responsabilités.
Comment est-ce que vous voyez les prochaines décennies ?
C'est une bonne question, mais ce sont des décennies de la responsabilité, je dirais. Ce sont des décennies de l'opportunité aussi, parce que nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la possibilité d'orienter les choses dans la bonne direction. Nous avons la possibilité de prendre des décisions. Et quelque part, cette crise, cette pandémie représente aussi, malheureusement, voyons le petit côté positif de cette pandémie, une opportunité, parce qu'il y a un très grand nombre de plans de relance, il y a des quantités phénoménales d'argent qui sont mises sur la table. Et on peut décider aujourd'hui, dans les années qui viennent, de mettre cet argent, très largement dans les pays développés, en tout cas, au service d'une reconstruction, d'une relance qui ne retombe pas dans les ornières du passé et qui prenne enfin en compte la nécessité de protéger l'environnement. Je voudrais dire d'ailleurs que ce n'est pas seulement le climat qui doit être protégé. Je crois que protéger la biodiversité est au moins aussi important. Je pense que les deux doivent d'ailleurs être davantage associés, couplés dans la réflexion et dans la prise de mesures. Et donc nous avons cette opportunité, parce qu'on est dans un grand tournant, hein, après quand on va se relever relever, je l'espère, bientôt de la pandémie dans le monde. On peut se relever en recommençant à maltraiter l'environnement, comme on l'a fait dans le passé, à se ficher du climat, si je puis dire, ou pas. Et donc, c'est une opportunité qu'on a. Et donc, je pense que les décideurs politiques, les décideurs économiques aussi, parce qu'il ne faudrait pas négliger le rôle des grands acteurs économiques aussi. Les grandes firmes internationales en particulier ont un rôle important pour aller dans la bonne direction ou pas. Et donc, c'est une opportunité et c'est une très grande responsabilité.
Alors, votre femme, Martine Capron, est psychothérapeute. Elle travaille sur ce que l'on appelle l'éco-anxiété. J'imagine qu'elle vous aide à avoir ce discours positif.
Oui, oui, tout à fait. Et en même temps, je suis bien ancré, j'ai les pieds sur terre et j'ai bien ancré dans cette conviction qu'il est possible d'agir, même si la situation est grave. Et donc, nous sommes bien tous les deux sur la même longueur d'onde. Mais effectivement, elle a lancé il y a quelques années déjà en Belgique. Et c'est parti de la Belgique et ça s'est étendu vers la France et vers d'autres pays. Elle a lancé dans le monde francophone la perception de l'importance de l'éco-psychologie et d'une meilleure prise en compte des aspects psychologiques et de la question écologique au sens large. Oui.
Et on en a bien besoin. Merci beaucoup, Jean-Pascal Van Iberzel. Je rappelle le titre de votre livre, Une vie au cœur des turbulences climatiques. C'est publié aux éditions de Boeck.
Est-ce que c'est toi par hasard qui fabrique les tempêtes, les typhons, les tornades et les cyclones? Est-ce que c'est toi qui les lance sur la mer quand ça te fait plaisir?
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
One step ahead of heartbreak, one step ahead of misery, one step is all I'd have to take backwards to be the same old fool for you I used to be. I'm only one step ahead of your arms, one kiss away from your sweet lips. I know I can't afford to stop for one moment, 'cause I'm just out of reach of your fingertips. Your shoulder keeps reminding me that it's too soon to forget you. It's too late to be free. Can't you see? I'm only one step ahead of your love. I tried and yet I can't take two. Seems like I'll have to take that one step backwards, 'cause one step ahead is a step too far away from you. 'Cause one step ahead is a step too far away from you.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous parlons des impacts du changement climatique qui se multiplient en Europe, nous venons d'en parler, mais aussi et surtout dans les pays du Sud. Bonjour Hélène Bottereau.
Bonjour Anne-Cécile Bras, bonjour.
Vous êtes chargée du plaidoyer sécurité alimentaire et agriculture à Oxfam France. Alors Oxfam, c'est une ONG de solidarité internationale qui travaille dans près de 70 pays auprès de plus de 3500 partenaires. Et les Nations Unies viennent de publier leur rapport annuel sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. Les chiffres sont assez accablants. 12% de la population mondiale a faim. Et un C'est un chiffre en hausse, Hélène Boutreau, qui s'explique par l'accumulation de trois causes, les trois C mortels que sont la Covid, les conflits et les changements climatiques.
Donc oui, en effet, les chiffres de la FAO sont sortis la semaine dernière. Ce sont les chiffres de la sous-alimentation, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'ont pas suffisamment à manger en termes de calories et ce sont vraiment des chiffres alarmants. Vous mentionnez les trois C mortels qui font en effet référence à une superposition des crises qu'on a noté nous dans un rapport qu'on a sorti tout juste avant les chiffres des Nations Unies et qui ont en effet exacerbé les situations de crise alimentaire. Donc vraiment les personnes qui sont dans des situations de faim extrême. Donc ces personnes en situation de crise extrême, on peut les chiffrer et on sait qu'elles ont augmenté cette dernière année et elles ont augmenté très fortement puisque c'est 155 millions de personnes qui sont en situation de crise alimentaire. Alors pour donner un ordre d'idée, c'est la population de la France, de l'Allemagne et de la Belgique environ réunies. Et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a six fois plus de personnes qui vivent dans des conditions proches de la famine. Et donc ça, c'est dû réellement à cette superposition des crises, donc les trois C mortels.
Alors, on entend souvent le chiffre de près de 900 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Donc, c'est un chiffre bien différent. Comment on peut faire le rapprochement ?
Oui, donc en fait, c'est des échelles qui permettent de mesurer l'insécurité alimentaire. Donc, lorsqu'une personne n'a pas accès à l'alimentation de manière constante ou de manière suffisante ou en qualité suffisante. Donc, il y a plusieurs critères. Donc, comme je vous le disais, la FAO, les 900 millions auxquels vous faites référence, c'est en effet la sous-alimentation, c'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas accès à manger en termes de quantité, en termes de calories. Le chiffre que je mentionnais sur les crises alimentaires, donc on est vraiment dans des situations de faim extrême. Donc, c'est des situations où des personnes sont obligées de sauter un repas, voire de sauter plusieurs repas, voire n'ont pas accès à l'alimentation dans les cas les plus extrêmes, quand je vous disais des conditions proches de la famine. Voilà, il y a plusieurs critères sur cette échelle. Et il faut savoir que les 155 millions, donc je rappelle, c'est la France, l'Allemagne et la Belgique réunies, on est vraiment sur des conditions de faim qui sont très, très alarmantes.
Et le Sahel est particulièrement touché ?
Alors oui, le Sahel est vraiment particulièrement touché. Donc la région du Sahel en Afrique de l'Ouest, on parle du Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, Niger, Nigeria et Sénégal. Voilà, tous ces pays qui ont connu une augmentation vraiment très forte de l'insécurité alimentaire. Donc c'est une des crises alimentaires qui s'intensifie le plus rapidement dans le monde. Donc bien sûr, les conflits sont un facteur clé de cette augmentation, avec une escalade un peu de la violence, notamment dans le centre du Sahel, dans le bassin du lac Tchad. Donc on assiste à des déplacements de population, hein, puisque dans le centre du Sahel, on parle de 5,3 millions de personnes qui ont dû fuir leur maison. Donc évidemment, cela touche leurs moyens de subsistance, l'accès à l'alimentation. C'est des populations qui travaillent la terre ou des populations pastorales qui doivent tout quitter, quitter leur culture, quitter leur bétail. Donc ça a un impact très très concret sur leur possibilité d'avoir accès à l'alimentation, sur leur sécurité alimentaire.
Alors l'Inde et l'Éthiopie sont aussi extrêmement touchées.
Oui, alors l'Éthiopie, à nouveau, c'est aussi des conditions conflictuelles. Donc on a une augmentation très forte des niveaux d'insécurité alimentaire critiques, voire extrêmes. Quand je parlais des personnes qui connaissent des conditions proches de la famine, vraiment, l'Éthiopie, la région principalement du Tigré, est un foyer très, très important d'insécurité alimentaire.
À cause de la reprise des conflits aussi ?
Oui, exactement. En Inde, c'est un petit peu différent puisque c'est vraiment un foyer plutôt émergent de faim extrême, c'est-à-dire que c'est vraiment une situation qui a évolué très rapidement, où vraiment la crise du Covid-19 a joué un rôle très, très important. On a une baisse de consommation des aliments de base essentiels, par exemple les lentilles qui font partie vraiment de la base de l'alimentation, ou encore des légumes verts qui ont un apport très important dans la nutrition des populations, qui ont chuté en 2020. Il y a aussi un grand nombre de personnes, donc 70% des personnes qui ont réduit leur quantité de nourriture consommée par rapport à avant la pandémie. Donc vraiment, la pandémie du Covid-19 a eu un impact très très fort au niveau de l'Inde.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, hein, Oxfam a publié un rapport qui s'appelle « Le virus de la faim se propage ». pour alerter justement sur ces situations catastrophiques. Et ce sont des situations qui touchent particulièrement les femmes.
Oui, c'est des situations qui touchent particulièrement les femmes, donc les crises alimentaires. Donc en fait, il faut savoir que la faim, c'est vraiment une question politique. On produit suffisamment de nourriture dans le monde pour nourrir toute la population mondiale, pour nourrir même plus que toute la population mondiale, puisqu'on produit 1,5 fois la quantité nécessaire à nourrir toute la population. Et que c'est vraiment aussi une question d'inégalité. Donc inégalité, puisque c'est souvent les personnes les plus marginalisées, les plus vulnérables et les plus pauvres qui ont moins accès à l'alimentation, alors que très souvent, ce sont les personnes qui produisent notre alimentation, puisqu'on parle des petits producteurs et des petites productrices. Et alors, les inégalités de genre sont aussi très fortes et sont très visibles alors, dans l'agriculture et notamment dans des situations de crise alimentaire. Nous, ce qu'on observe et ce qu'on voit, c'est que les femmes sont en général celles qui mangent le moins et le moins bien en situation de crise, qui vont se sacrifier pour la nutrition de leur famille, de leur communauté. Ce sont aussi les femmes qui vont mettre en place ce qu'on appelle des mécanismes d'adaptation à la crise, donc trouver un nouvel emploi, voilà, cumuler deux emplois, souvent trouver des emplois à risque, de prostitution, etc. Dans des situations où on a des conflits, justement, ça présente un risque beaucoup plus grand pour les femmes d'aller au marché, accéder à l'alimentation. Et donc, ça, c'est dû à des discriminations vraiment structurelles, c'est-à-dire que les femmes ont moins accès à des ressources pour s'adapter en situation de crise, puisqu'elles sont victimes de discrimination au niveau sociétal, au niveau des ménages. Et donc, de fait, en situation de crise, elles ont moins de possibilités de s'adapter et justement de pouvoir surmonter ces crises alimentaires.
Alors, dans ce rapport, vous dénoncez aussi les causes structurelles de la faim. Alors, quelles sont-elles ? On a parlé des changements climatiques, on a parlé de la Covid-19 qui a accru, évidemment, la difficulté de circulation des biens, notamment alimentaires. Et puis, évidemment, on a parlé des conflits, mais ce sont les trois causes les plus fortes, mais il y en a d'autres.
En fait, quand on parle de ces trois C, donc Covid, changement climatique et conflit, ça se superpose sur une base qui est extrêmement défaillante. C'est-à-dire que notre système agricole et alimentaire est extrêmement défaillant dans le sens où il y a des inégalités structurantes et des inégalités très très fortes de notre système agricole et alimentaire où une poignée d'acteurs vont détenir alors, la plupart des richesses. Il y a très peu de répartition des richesses dans l'alimentation, mais aussi l'aspect plus politique gouvernance de la sécurité alimentaire. Et au final, la plupart des acteurs qui composent notre système agricole alimentaire, les plus petits producteurs, les éleveurs, les éleveuses, les travailleurs et travailleuses dans les chaînes d'alimentation, sont ceux qui vont être le plus défavorisés, qui ne vont pas avoir un revenu décent, qui ne vont pas être capables de s'adapter au changement climatique car ils manquent de financement pour pouvoir le faire. Donc vraiment un système qui est extrêmement défaillant et qui en plus a des conséquences directes sur la crise climatique puisque c'est un système qui va alimenter la crise climatique. Donc sur cette base vraiment qui ne fonctionne pas, on a en plus ces crises qui se juxtaposent, donc des conflits qui s'exacerbent un peu partout dans plusieurs régions du monde. Donc la crise climatique avec des impacts très forts dans la Corne de l'Afrique. On a eu vraiment cette invasion de criquets pèlerins l'année dernière. On a des typhons, des cyclones, des ouragans qui vont détruire des récoltes, des inondations et des sécheresses très fortes qui vont affecter directement les rendements agricoles. Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la crise du Covid-19. Et donc, ce n'est pas le Covid-19 en soi qui va avoir un effet sur l'agriculture, c'est les mesures qui sont mises en place, des mesures de fermeture des frontières, de fermeture des restaurants, des écoles, donc plus de débouchés pour les producteurs et les productrices. Les écoles qui ferment, donc ça veut dire que c'est un repas qui était important pour beaucoup d'enfants dans les pays du Sud et beaucoup de ménages. Voilà, le repas qui était pris à l'école était très important et donc il faut l'assurer maintenant à la maison. Et pour des ménages pour qui le budget de l'alimentation, ça peut représenter vraiment, on a du mal à s'imaginer, mais ça peut représenter jusqu'à 80% d'un budget dans certains pays. C'est vraiment un impact dévastateur.
Alors à cela s'ajoutent les changements climatiques, évidemment, on l'a rapidement évoqué, mais 80% de l'alimentation mondiale est produite par une agriculture dite familiale, hein, c'est une agriculture de subsistance et ces paysans dépendent étroitement évidemment des aléas naturels comme les sécheresses et les inondations qui se succèdent. On a compris pourquoi avec le climatologue juste avant, mais pour ces populations, c'est vraiment de plus en plus compliqué à gérer.
Ouais, c'est vraiment de plus en plus compliqué et on voit une corrélation très forte. On voit que la faim, c'est un problème qui est beaucoup plus présent dans les pays dont le système agricole est justement très sensible à la variabilité des précipitations, à la variabilité des températures et justement aux sécheresses graves. Et lorsqu'il y a une grande partie de la population qui vit de l'agriculture et qui a une très forte exposition aux extrêmes climatiques, c'est en effet très problématique. On a environ 500 millions de personnes qui vivent dans des zones qui sont touchées par la désertification, donc c'est-à-dire qu'on a une dégradation forte des terres qui est due notamment à la sécheresse, mais aussi aux activités humaines, etc. Donc c'est extrêmement problématique. Et ce qui est encore plus problématique, c'est que, bah, comme je le disais, on n'a pas de financement de l'adaptation au changement climatique suffisant, parce que si on prend l'ensemble du financement public de l'adaptation qui est actuellement versé, et si on le répartit entre les milliards d'agriculteurs paysans et familiaux des pays en développement, eh bien, au final, au bout du compte, c'est comme si chaque personne recevait à peu près un peu moins de 3 dollars par an pour se protéger des inondations, des sécheresses, des autres phénomènes extrêmes. Voilà, donc c'est vraiment ridicule. Donc les pays riches se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement à s'adapter aux effets des changements climatiques et à réduire leurs émissions. Le compte n'y est pas, clairement. On sait, on le voit, les impacts du changement climatique sont de plus en plus présents. On le voit en France. On l'a vu ces derniers mois avec les épisodes de gel, les pics de chaleur, les épisodes de sécheresse. Donc voilà, il faut savoir que pour les paysans et paysannes du Sud, c'est extrêmement visible et ça a des conséquences dramatiques et le compte n'y est pas. Il va vraiment falloir produire un effort. Comme je le disais, la faim, c'est vraiment une question politique.
Alors l'agriculture, on l'a bien compris, est victime des changements climatiques, hein, notamment dans les pays du Sud. Mais ce qui est moins connu, c'est que les systèmes agricoles des pays industrialisés eux-mêmes accentuent aussi la crise climatique.
Oui, complètement. En fait, on parlait de notre système agricole et alimentaire, donc toutes ces composants de la fourche à la fourchette. Ce système agricole et alimentaire, il est responsable de environ 37% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux. Voilà, donc c'est les chiffres du GIEC, le groupement d'experts qui travaille sur le climat. Donc ça correspond aux gaz émis lors de la production des aliments, au transport, à la transformation des denrées. Et ça concerne aussi les pertes, le gaspillage agricole. Et si on ne change pas notre modèle, ce système agricole et alimentaire, les estimations du GIEC, c'est que les émissions pourraient augmenter de 30 à 40% les émissions du système agricole et alimentaire. Donc vraiment, on est sur une part très importante. En France, l'agriculture, c'est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. En plus, il faut savoir que l'agriculture, donc on parle surtout du modèle agro-industriel et notamment les élevages industriels, mais aussi les plantations de monoculture qui utilisent des intrants, des pesticides chimiques, vont émettre des gaz qui ont un pouvoir chauffant plus élevé que le CO2, hein, le méthane, le protoxyde d'azote. Donc c'est un modèle agricole qui n'est pas durable. Je pense que maintenant, c'est un message qui commence aussi à être plus entendu, qu'on doit aller vers des modes de production qui sont plus durables, plus respectueux de la planète, plus respectueux des sols, plus respectueux de l'eau.
Merci beaucoup, Hélène Bautreau, pour toutes ces précisions. Et je signale aux auditeurs que les liens vers les rapports que nous avons cités dans notre discussion seront disponibles sur la page de l'émission. Merci à vous.
Merci. Merci, Anne-Sylvie.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Ce qu'on peut souvent reprocher à l'agribusiness, c'est la préférence à un taux de profit à court terme, c'est-à-dire imposer à leurs agriculteurs des produits un peu standards, alors que l'agroécologie, c'est précisément au contraire prendre en compte les spécificités de chacun des petits pays, de chacun des agroécosystèmes, comme on dit dans notre jargon, et fabriquer des produits de qualité, toute qualité confondue, gustative, nutritionnelle et environnementale sur ces terroirs.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Games par Janet Kay, une des chansons préférées du mythique Steve McQueen. Et une belle initiative pour nous redonner le sourire après cette émission un peu lugubre. L'UNESCO et la marque de cosmétiques Guerlain s'associent pour la deuxième année pour le programme des femmes pour les abeilles. Bonjour Cécile Lochard.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes la directrice du développement durable de la maison Guerlain. Alors, en quoi consiste ce programme international que vous avez lancé l'an dernier ?
Alors, ce programme est un programme d'entrepreneuriat apicole au féminin que Guerlain a lancé en partenariat avec l'UNESCO, en collaboration également avec l'Observatoire français d'apidologie qui se situe en France, en Provence. Et l'objectif, c'est vraiment de développer des exploitations apicoles partout dans le monde, au sein des réserves de biosphère de l'UNESCO, dont certaines d'ailleurs accueillent des filières de plantes à parfum de la maison Guerlain.
Alors comment est-ce que vous accompagnez ces femmes ?
Eh bien ces femmes, très concrètement, on leur propose de les former au travers d'une formation intensive d'un mois au métier d'apicultrice. On leur propose également de repartir une fois qu'elles sont formées à la fois techniquement et théoriquement à ce beau métier qui est parfois très neuf, hein, très nouveau pour elles, et bien avec 50 ruches, 50 essaims d'abeilles locales, je le précise, le but n'est pas bien entendu d'exporter des espèces non endémiques, et un équipement, et puis surtout, elles ont une formation de longue durée, ce qu'on appelle une hotline. Nous sommes là à chaque moment de leur installation pour les rassurer sur certains nouveaux problèmes qu'elles pourraient expérimenter dans l'installation de cette unité apicole dans leur pays.
Et alors, vous le disiez, ces apicultrices vont travailler au sein des réserves de biosphère désignées par l'UNESCO. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'une réserve de biosphère et comment se passe ce partenariat ?
Oui, alors les réserves de biosphère de l'UNESCO, elles sont au nombre de plus de 700 dans le monde. C'est le pilier, vous savez qu'on oublie souvent de l'UNESCO, on connaît la culture, on connaît l'égalité des genres, mais il y a aussi donc l'éducation, mais il y a aussi ce pilier « Man and the biosphere », l'homme et la biosphère. Donc 700 zones de biosphère dans le monde, dans plus de 120 pays. Et ce sont vraiment des zones où l'homme et la nature vivent en harmonie. Ce ne sont pas des réserves sanctuarisées de nature sans implication et sans activité de l'homme. Mais le but, c'est de créer une cohésion plus harmonieuse. Et donc, on a signé ce partenariat avec l'UNESCO il y a 2 ans. Et le but de former ces femmes, 50 en 5 ans, dans 25 réserves de biosphère de l'UNESCO, parce qu'à chaque fois, on sélectionne 2 femmes par zone de biosphère.
Alors, donc, vous le disiez, 50 femmes formées donc en 5 ans. Cette année, à cause de la crise sanitaire, ce ne sont que des Françaises. Mais l'objectif, c'est d'ouvrir au monde entier un maximum de pays, et notamment, pourquoi pas, aux pays francophones.
Alors, effectivement, nous, on recherche des candidatures cette année et particulières. Vous l'avez précisé, Anne-Cécile, pour sécuriser vraiment le lancement qui aurait même dû avoir lieu l'an passé. Eh bien, on s'est focalisé et on a resserré les castings sur des femmes françaises, des profils français. Mais l'objectif est vraiment d'étendre ce projet au monde entier. On a déjà d'ailleurs, puisqu'on avait commencé à identifier des femmes en Éthiopie, au Rwanda, en Chine et plus précisément dans le Yunnan, au Cambodge. Mais on est en recherche pour l'année prochaine, voilà, de femmes en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, dans d'autres pays d'Asie, au Liban. Voilà, je lance un appel, n'hésitez pas. Sur le site de Guerlain, vous envoyez un message, ça m'est tout de suite rerouté. Vous pouvez en être absolument assuré.
Donc, si je suis auditrice au Cameroun ou au Sénégal et que j'ai envie de candidater pour être formée par vous à l'apiculture, je fais comment ? Enfin, est-ce qu'il y a des critères particuliers ?
Alors, il y a des critères particuliers. Il faut déjà avoir l'envie de créer une unité apicole, d'être formée et d'en faire son métier ou en tous les cas son activité additionnelle. Il faut avoir déjà eu un contact avec les abeilles. Il faut être très motivé parce que c'est un métier, on l'ignore souvent, mais fatigant. Nous, nos apicultrices qu'on a intensivement formées durant du 21 juin au 21 juillet, elles ne s'attendaient pas forcément à travailler la nuit. Quand on opère les transhumances, quand on déplace des colonies d'abeilles, un cheptel d'un lieu à un autre où il y a plus de fleurs, eh bien, on travaille la nuit, on attend que les abeilles soient rentrées dans la ruche. Donc, en fait, c'est un travail qui est également très physique. Donc ça, on le précise. Et puis, il faut être aussi disponible sur un mois intensif. Ça, je le précise également, parce qu'on a des mamans. Ça nécessite de l'organisation. Voilà, nous, on a fait le choix de former exclusivement des apicultrices, parce qu'on est parti aussi d'échanges avec l'UNESCO, où les femmes qui travaillent dans les zones rurales sont plus souvent touchées par le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, que le rôle des femmes dans la gestion de la biodiversité n'est pas assez reconnu. Donc, ce sont des femmes qu'on veut former. Mais les femmes, elles ont souvent aussi une charge avec les enfants, l'organisation. Donc, il faut pouvoir anticiper ça.
Oui, mais la famille a intérêt aussi à ce que les femmes fassent cette formation. Et vous prenez tout en charge.
On prend tout en charge. Le voyage, la formation. On offre, comme je l'ai précisé, aussi les ruches, les essaims, l'équipement, la hotline, une fois qu'on s'est installé avec son unité apicole dans sa zone de biosphère, dans son pays. Il faut pouvoir aussi avoir, et ça je le précise, des accords avec soit des agriculteurs, soit des proches, des voisins qui ont des terrains à mettre à disposition, des ruches, hein, du cheptel qu'on installe ensuite. Donc tout ça, ça s'anticipe, effectivement.
Merci beaucoup, Cécile Lochard.
Je vous en prie, merci à vous.
Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs. Nous savons que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en direct ou en podcast et c'est un plaisir immense. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure.